trime dur et rentre tard. Aube glacée, petit boulot et train bondé des banlieusards. Balai, poubelle, pelle, machine, ils sont laveurs, gardiens, caissières. Travail, besogne, s'échine pour gagner moins que leur misère. Ça...
Bonsoir, c'est GMC+, Abalias, Gabriel, Maurice, Claude et les autres. Donc c'est la deuxième nouvelle émission consacrée, comme son nom l'indique, Gabriel, Maurice, Claude et les autres, aux compositeurs français de la fin du 18e, du 19e siècle, pardon, jusque entre les deux guerres. Voilà, vous reconnaissez ma voix, c'est normal, je suis Yves de Jazzlib, voilà, donc cette nouvelle émission est un petit peu différente parce que, comme je l'explique sur le site de la radio, je vous expliquerai après, ce sont des musiciens qui ont eu... beaucoup de relations avec les musiques externes à la musique classique, à savoir la musique d'Extrême-Orient, la musique africaine, le jazz, tout ça. Enfin, donc voilà, ce sont des choses qui ont été très très importantes dans leur construction et dans leur manière de composer, qui a été un petit peu en rupture avec, je dirais, le fonctionnement classique de la composition orchestrale. Alors ce soir, nous allons nous pencher sur, comme je l'ai indiqué, sur le voyage en Orient. Avant, je vous rappelle que nous sommes sur Radio Libertaire 89.4, que vous avez l'ensemble du programme sur le site de la radio, Radio Libertaire. Vous pouvez l'écouter en DAB+, si vous êtes équipé, hein, c'est la nouvelle norme numérique qui est en place sur la région parisienne et Paris. Vous pouvez télécharger et écouter en podcast pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. N'oubliez pas de télécharger la souscription car nous avons besoin de votre soutien actif pour maintenir le matériel, pour avoir... enfin voilà, Vous savez tout. Alors, ce soir, nous allons voyager en Orient, enfin, au début, un Orient un petit peu fantasmé, et nous allons parler de Maurice Ravel, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Alors, ce soir, bizarrement, je dis bizarrement parce que vous allez comprendre, et ce ne seront que des œuvres chantées. Alors, vous le savez, pour ceux qui écoutent Jazz Lib, je suis très difficile sur les voix. Alors vous allez vous dire, mais comment se fait-il qu'il écoute, qu'il nous passe de des chants, surtout en classique, tout ça, c'est un peu bizarre. Alors oui, mais comme toute règle, il y a son exception, et je fais donc exception pour un certain nombre de choses, et notamment Ravel est un des compositeurs qui m'a toujours le plus touché, mais vraiment de manière extrêmement forte. C'est un compositeur que je trouve particulièrement extraordinaire et en même temps extrêmement français. Il y a une espèce d'élégance chez lui, de la manière d'orchestrer, qui est absolument incroyable. Alors nous allons commencer. Je vais vous parler d'abord de Ravel et puis ensuite de ce que nous allons écouter. Nous allons écouter le Scheherazade. Alors, Ravel avait commencé le Scheherazade en tant qu'opéra, mais finalement ça n'a pas fonctionné. Et il a donc fait le Scheherazade en trois parties, qui sont l'Asie, hein, donc voilà, Voyage en Orient, la flûte enchantée et l'indifférent. Alors, quelques mots pour commencer sur Maurice Ravel, mais il y a tellement de choses à dire et j'y reviendrai évidemment, je ne vais pas pouvoir tout faire en si peu de temps. Et dans mon texte, il y avait nous sommes mal armés pour aller voyager vers l'Orient, parce qu'ensuite vous aurez trois chansons sur des textes de Stéphane Mallarmé. Voilà, donc c'était évidemment un jeu de mots assez pourri, mais je l'assume. Alors, donc Maurice Ravel, pour rappel, est né à Cibourg le 7 mars 1875, et il est mort à Paris 16e le 28 décembre 1937. Alors il y a plusieurs histoires par rapport à sa mort. On suppose qu'il a eu une dégénérescence du type Alzheimer, mais qui aurait été provoquée par un accident de voiture. Il était dans un taxi. Mais maintenant, on peut supposer qu'en fait, il avait déjà commencé à avoir cette maladie qui l'a affecté au plus haut point. Et il en est mort suite à une opération qui n'a pas fonctionné. Voilà. Alors Maurice Ravel n'est pas celui qui a le plus composé, hein, puisque on a à peu près une centaine d'œuvres comparé à 500 la dernière fois. Je vous ai parlé qu'on a composé 600, donc on a 86 œuvres originales et 25 œuvres orchestrales, voilà, qui vont de Couperin à Rameau, je veux dire en tant qu'influence et hommage au jazz, et évidemment une influence de l'Espagne. Alors on a dit le fait qu'il soit né à Cibourg, proche de l'Espagne, était quelque chose qui l'a influencé, mais en fait pas du tout, puisque ils sont partis très très vite à Paris, et donc ils venaient au Pays Basque régulièrement, mais bon, voilà. Alors, il dit, donc il a une enfance assez heureuse, ses parents étaient assez intentionnés pour l'époque, cultivés, ils étaient dans un milieu artistique, ils ont éveillé très très vite son appétence musicale, et il a commencé l'étude du piano à l'âge de 6 ans sous la férule d'un compositeur qui s'appelait Henri Guis. Et il a reçu ses premiers cours de composition de Charles René en 1887, harmonie et contrepoint. Voilà, donc on voit qu'il est tout de suite. Mais le climat artistique musical de la fin du 19e siècle, comme je l'explique, est tellement bouillonnant que ça a vraiment contribué à son épanouissement. Mais au désespoir de ses parents et de ses professeurs qui avaient reconnu plus tard qu'avec ses nombreuses dispositions, il avait la plus extrême paresse. Voilà. Alors il disait, tout enfant, j'étais sensible à la musique, à toute espèce de musique. Mon père, beaucoup plus instruit dans cet art que ne le sont la plupart des amateurs, sut développer mes goûts et de bonne heure stimuler mon zèle. Voilà, donc on est parti, voilà. Alors, je continuerai à vous en parler, mais nous allons commencer par écouter la première œuvre. Alors, le Scheherazade. pourquoi c'est quelque chose d'important. Alors, dans son autobiographie, Ravel mentionne qu'il a un attrait profond pour l'Orient. On est en pleine époque du japonisme, la fascination de l'Orient, donc c'est quelque chose qui est dans l'air. Hein. Fujita est là aussi. Enfin, on découvre cette partie du monde et elle exerce une fascination sur les artistes, dont Ravel. Alors la création de Scheherazade a commencé le 27 mai 1899 sous la direction de Maurice Ravel en personne, au 278e concert de la Société Nationale de Musique au Nouveau Théâtre. Alors, l'œuvre n'a pas eu vraiment de succès et n'a plus jamais été jouée de son vivant, voilà, ni même de son frère cadet et héritier, Édouard Ravel, qui lui est mort en 1960. Et donc la partition a été inédite, et donc la version que je vous propose d'ailleurs, elle a été enregistrée en 1972. Alors c'est une belle version, il y a Heather Harper, la chanteuse soprano, David Butt à la flûte et le Symphony Orchestra de la BBC et direction Pierre Boulez. Donc bon, voilà, quand même du beau monde, hein, on ne va pas dire le contraire. Voilà, alors c'est là où moi j'ai une profonde admiration pour cette œuvre, qui est assez courte hein, quand même, en trois parties, c'est qu'il avait choisi ces textes, Ravel, parce qu'il les considérait les moins aptes à être mis en musique. Vous voyez donc le challenge sur lequel il se met, Ravel. Hein. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant, il a été beaucoup critiqué pour son côté très rigoureux. Enfin bon, je vous donnerai un certain nombre d'anecdotes plus tard, et puis voilà, on a encore une bonne partie de la vie pour en parler. Et donc, il compose le cycle des mélodies en 1903 à Paris, et elle fut créée donc en 1904 par la mezzo-soprano Jeanne Hatto sous la direction d'Alfred Cortot. Alors, parfois on dit que c'est Jeanne Bathory qui a remplacé Jeanne Hatto lors de la première. Mais en fait, c'est lors d'une édition ultérieure au Bouffe Parisien, le 12 novembre 1904, que Jeanne Bathory remplaça en effet Jeanne Hatto. Voilà, donc c'est un petit peu cette confusion. Et donc, il est dit qu'à l'admirable musicienne mademoiselle Jeanne Bathory, en reconnaissance du tour de force du 12 novembre, la partition a d'abord été aux éditions musicales de Gabriel Astruc, et ensuite la session de Scheherazade et du Quatuor à cordes aux éditions musicales Durand en 1910. Alors, là aussi, quelque chose d'important, puisque en fait, habituellement, l'œuvre est chantée par une voix de femme, mais on trouve certaines interprétations par des voix d'hommes apportant une couleur entre guillemets homo-érotique, et particulièrement dans les deuxième et troisième poèmes que je vous dirai. Alors on dit, il y a eu, vous savez, cette espèce de guéguerre permanente entre Debussy et, enfin, de guéguerre qu'on a mis, l'entourage et l'extérieur a mis en place entre Debussy et Ravel, mais Ravel admirait Debussy, il l'a toujours dit. Mais bon, voilà, il y a eu un certain nombre de petits couacs qui ont entaché, je dirais, leur relation. Mais dans cette œuvre, on peut sentir l'influence spirituelle. Quand je dis spirituelle, c'est l'esprit de Debussy qui se fait sentir. Et en même temps, Ravel a déjà écouté et au courant des innovations de Schoenberg. Schoenberg, c'est quelqu'un qui, l'école de Vienne, hein, le dodécaphonisme, et qui dit que il n'y a plus de fausses notes, on peut faire ce qu'on veut, et puis ça remet aussi en question tout le travail, enfin pas tout le travail, mais la capacité à être forcément en grand orchestre. Voilà, ça permet aussi de libérer cette idée-là. Alors le texte est d'un poète qui s'appelle Tristan Klingsor, hein, donc c'est un nom de plume, il s'appelle Léon Leclerc, ce qui est quand même beaucoup plus... Voilà, il est né en 1874 à La Chapelle aux Pots dans l'Oise, et il est mort le 3 août 1966 à l'hôpital du Mans. Alors c'est un poète, un musicien, un peintre, un critique d'art, et donc il a fait cette, ce texte qui était dédié pour l'Orient de fantasmé, je dirais, c'est un peu comme chez Duke Ellington où l'Afrique est un petit peu fantasmée aussi, voilà. Donc on est dans cette période-là. Alors, avant de commencer, je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que on a eu des études scientifiques qui faisaient apparaître le fait que les chanteuses classiques, lorsqu'elles chantaient, on ne comprenait pas ce qu'elles disaient. Parce que, en fait, la configuration du larynx, des cordes vocales et de ce genre de choses faisait qu'en réalité, c'était difficile de comprendre. Alors là, d'autant plus que cette chanteuse Isa Harper est d'origine anglaise ou écossaise, je ne sais plus. Et donc, la difficulté des anglo-saxons pour prononcer le français est difficile. Et notamment, je vais vous lire les premières... Il y a beaucoup de textes, donc je ne vais peut-être pas tout vous lire, mais voilà, ça commence comme ça, et vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est « Asie, 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 vieux pays merveilleux des contes de nourrices, où dort la fantaisie comme une impératrice, en sa forêt tout emplie de mystères. » Asie, je voudrais m'en aller avec la goélette qui se berce ce soir dans le port mystérieux et solitaire et qui déploie enfin ses voiles violettes comme un immense oiseau de nuit dans le ciel d'or. Alors, vous allez voir tout de suite, vieux pays, elle ne sait pas le dire comme il faut. C'est difficile pour les anglo-saxons. Elle va dire pays, genre pays, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc après, il faut s'accrocher un petit peu. Mais ce qui est tout à fait remarquable dans cette œuvre de Ravel et qui, pour moi, est extraordinaire, c'est que chaque strophe, chaque vers, chaque ligne de texte est accompagnée par une musique différente. C'est-à-dire que nous allons passer en l'espace de 9 minutes, qui est assez peu, dans un voyage musical tellement différent à chaque moment, c'est d'une richesse, c'est éblouissant, c'est une œuvre absolument extraordinaire. Voilà, je vous laisse en compagnie de ce premier mouvement du Scheherazade et vous m'en direz des nouvelles.
Je voudrais m'en aller vers les îles de France. voudrais voir des assassins souriants, des bourreaux qui coupent un coup d'innocent avec son grand sabre courbé d'Orient. Je voudrais voir des pauvres et des reines, je voudrais voir des roses et du sang, je voudrais voir mourir d'amour auprès
GMC Plus, pardon, Radio Libertaire 89.4. Alors, voilà, hein, c'est tout à fait passionnant de voir en 1904 les solutions harmoniques qu'ils trouvent et qui vont être empruntées, ils l'ont toujours dit, par les jazzmen. Hein, on a là l'usage à un moment donné des pentatoniques, donc c'est une chose que les pédales, c'est... un accord, une note continue sur laquelle vont être modulés plusieurs types d'accords. Voilà, Coltrane va utiliser ce genre de choses. Donc, c'est d'une... Nous, ça nous paraît maintenant peut-être un petit peu classique ou suranné, mais en réalité, c'est extrêmement, extrêmement moderne. Alors... je vous avais parlé du côté nationaliste de Saint-Saëns la dernière fois. Alors, Ravel, pas du tout. Hein. Alors là, c'est vraiment quelqu'un qui est complètement à l'opposé, qui se refuse à toute discrimination. Et voilà ce qu'il dit, justement, parce que... La guerre de 14-18 a surpris complètement tout le monde, et Ravel en particulier. Il était en pleine composition d'un trio en la mineur, créé en 1915, mais bon... Alors, il va chercher à s'engager, mais bon, c'est une ablette, hein. Il pèse 48 kilos, il est refusé parce qu'il est trop léger. Finalement, le fait de ne rien faire le ronge un peu, donc il fait à force d'insister, il est incorporé dans l'aviation. Il veut être incorporé dans l'aviation et finalement il va être conducteur d'un camion militaire qui va, pour l'anecdote, appeler Adélaïde. Voilà. Donc il va être envoyé en 1916 à côté de Verdun et depuis le front, voilà, plusieurs musiciens tombent justement dans ce travers du nationalisme, et là, Ravel, pas du tout. Alors, il va dire ceci, et c'est quand même assez intéressant, parce que voilà, y a une chose qui se passe, c'est que il y a la Ligue nationale pour la défense de la musique française. Et alors, c'est une organisation qui est créée par Charles Tanrock et notamment Vincent Dindy, Camille Saint-Saëns et Alfred Cortot, hein, donc je vous en avais parlé, et qui entendait de faire de la musique un outil de propagande nationaliste et d'interdire, entre autres, la diffusion en France des œuvres allemandes et austro-hongroises. Et donc, Ravel répond le 7 juin 1916. Il a beaucoup de lucidité sur plein de choses. Hein. Je vous avais dit déjà ce qu'il disait à propos du jazz. Et donc, là, il dit... Je ne crois pas que pour la sauvegarde de notre patrimoine artistique national, il faille interdire d'exécuter publiquement en France des œuvres allemandes et autrichiennes contemporaines non tombées dans le domaine public. Il serait même dangereux pour les compositeurs français d'ignorer systématiquement les productions de leurs confrères étrangers et de former ainsi une sorte de coterie nationale. Notre art musical, si riche à l'heure actuelle, ne tarderait pas à dégénérer, à s'enfermer en des formules poncives. Il m'importe peu que M. Schönberg, par exemple, soit de nationalité autrichienne. Il n'en est pas moins un musicien de haute valeur, dont les recherches pleines d'intérêt ont eu une influence heureuse sur certains compositeurs alliés, et jusque chez nous. Bien plus, je suis ravi que messieurs Bartók et Kodály et leurs disciples soient hongrois et le manifestent dans leur œuvre en tant que saveur. En Allemagne, à part M. Richard Strauss, nous ne voyons guère que des compositeurs de second ordre dont il serait facile de trouver l'équivalent sans dépasser nos frontières. Mais il est possible que bientôt de jeunes artistes s'y révèlent et qu'il serait intéressant de connaître ici. D'autre part, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire prédominer en France et de propager à l'étranger toute musique française, quelle qu'en soit sa valeur. Vous voyez, messieurs, que sur bien des points, mon opinion est assez différente de la vôtre pour ne pas me permettre l'honneur de figurer parmi vous. Waouh ! Hein, ça méritait quand même d'être dit. Donc, nous continuons, parce que l'heure tourne nonobstant, et je voudrais vous faire écouter plein de choses, mais voilà. Donc, on continue avec le second mouvement de Scheherazade qui s'appelle La Flûte Enchantée. Alors évidemment, on fait tout de suite le rapport avec Mozart, hein, bien sûr. Alors, je vais vous lire le texte là, qui lui est beaucoup plus court. Voilà ce qui est dit. L'ombre est douce et mon maître dort, coiffé d'un bonnet conique de soie, et son long nez jaune en sa barbe blanche. Mais moi, je suis éveillé encore, et j'écoute au dehors une chanson de flûte où s'épanche tour à tour la tristesse ou la joie. Un air tour à tour langoureux ou frivole que mon amoureux chéri joue. Et quand je m'approche de la croisée, il me semble que chaque note s'envole de la flûte vers ma joue comme un mystérieux baiser. Alors évidemment, chanté par un homme, ceci pourrait évidemment prendre une toute autre dimension. Voilà, donc nous allons écouter cette deuxième partie de ce Scheherazade.
Coiffé d'un bonnet conique de soie,
GMC+, Radio Libertaire, 89.4, Yves au micro, le même que sur Jazz Lib, hein, voilà, vous m'aurez reconnu. Donc, on a vu l'extrême intelligence et rectitude d'attitude de Ravel, hein, qu'il aura tout au long de sa vie. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Il a été, en 1910, avec Charles Cochelin et Florent Schmitt, notamment, un des fondateurs de la Société Musicale Indépendante, SMI, qui a été créée pour promouvoir la musique contemporaine par opposition à la Société Nationale de Musique plus conservatrice. Voilà, donc je vous disais à l'instant, avec Vincent Dindy, qui était lié à la Schola Cantorum. Alors, elle a été au début dirigée par Gabriel Fauré, et puis, bon, voilà, elle a été active jusque dans les années 30 et donna en première audition un grand nombre des œuvres de Ravel et contribua alors à faire connaître plein d'autres musiciens de l'école française. Alors, certains ont un peu disparu des radars, mais bon, je pense que nous y reviendrons, notamment Aubert qui appelait Delage, Huré, Cochelin, Schmitt, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que Ravel avait invité Béla Bartok. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Et en 1911, Ravel participer à la création de la Société Chopin à l'initiative du musicologue et néanmoins son ami Édouard Ganche. Voilà. Donc, ça n'a jamais été très facile pour lui de fonctionner. Alors, évidemment, la reconnaissance viendra bien après, notamment avec l'ineffable Boléro qui est, bon, je pense peut-être le morceau le plus joué de Ravel, mais bon, je vous en ferai l'économie, voilà, c'est quelque chose qui est, bon, tellement connu que ça, je préfère vous faire écouter d'autres choses. Alors, nous allons écouter là, en le troisième et dernier mouvement de ce Scheherazade qui s'appelle L'Indifférent. Alors là, évidemment, il y a beaucoup d'ambiguïté dans le texte qui, je le précisais, est à la fois, peut être chanté à la fois par un homme ou par une femme, mais plus souvent par une femme, mais bon. Mais voilà ce qui est dit. Et le titre de troisième s'appelle L'Indifférent. Tes yeux sont doux comme ceux d'une fille, jeune étranger à la courbe fine, de ton beau visage de duvet ombragé et plus séduisant encore de ligne. Ta lèvre chante sur le pas de ma porte, une langue inconnue et charmante comme une musique fausse. Entre et que mon vin te réconforte, mais non, tu passes et de mon seuil je te vois t'éloigner, me faisant un dernier geste avec grâce et la hanche légèrement ployée par ta démarche féminine, hélas. Voilà. Donc, nous allons l'écouter. C'est parti. GMC+, Radio Libertaire 89.4. Donc il s'agissait de la troisième partie, l'indifférent. Alors évidemment, Ravel a des harmonies qui font un peu dresser les cheveux sur la tête des classiques. Ce sont des harmonies qui vont utiliser des choses qui n'étaient pas forcément choses courantes, notamment la septième, le triton qu'il va utiliser. Alors le triton, vous savez, c'est cet accord qui a du mal à être résolu, mais qu'il va trouver des systèmes harmoniques pour mettre cette note compliquée, hein, qui va la mettre plus... Enfin voilà, il va réarranger, je passe à des détails, mais il va arranger sa cuisine de façon à ce que ça sonne différemment. Et ce qui est tout à fait notoire, c'est que bon nombre de compositeurs de musique de film se sont inspirés de tous ces compositeurs français. Je l'ai dit déjà la dernière fois, mais Ravel, c'est vraiment évident. Hein. Je vais pas faire la liste des compositeurs de musique de film, mais il y en a tellement que, notamment aux États-Unis, qui ont pompé ce type d'harmonie, qui ont... voilà. Donc c'est pas du tout étonnant. Alors je reviens un tout petit peu justement sur le texte de Scheherazade avec Tristan Klingsor. Alors son nom est associé à un groupe qui s'appelait les Apaches, où chacun avait un pseudonyme. Et Léon Leclerc, donc Tristan Klingsor, lui, en fait, il a pris ce pseudonyme, c'est le chevalier qui s'oppose à Parsifal, le prénom de Tristan, suggérant de même un opéra wagnérien. Voilà, donc Tristan et Isolde. En fait, c'est ce choix, c'est ce que dit l'historienne Nathalie Morel-Borotra, qui est en fait dictée par la lecture d'une ballade médiévale allemande et non de l'œuvre qu'en fixa Richard Wagner. Et il dit « il m'a fallu un nom bien ronflant ». Et donc voilà, ça a été tout à fait réussi. Alors il dit aussi, par rapport au vers de Scheherazade qu'il a écrit avec Ravel, il dit « j'avais opté la technique du vers libre, elle me paraît convenir particulièrement à la musique. Le vers régulier oblige le compositeur à des coupes uniformes. Je crois au contraire que Ravel était secrètement séduit par un balancement, plus varié et moins artificiel des rythmes. » Donc voilà, c'est la suite en fait de 100 poèmes rassemblés et écrits et en 1901 et rassemblés dans Scheherazade. Voilà, donc... comme je vous disais, c'est avec l'Orient en tant que effet de mode de l'époque, on l'avait aussi avec Rimsky-Korsakov et puis le Conte des Mille et Une Nuits, hein, qui était vraiment l'Orient très très séduisant avec ses charmes que l'on connaissait pas encore. Voilà. Alors là, nous allons maintenant aller un tout petit peu plus loin dans l'œuvre chantée. Alors là, il s'agit des trois chansons sur les trois poèmes de Stéphane Mallarmé. Alors Stéphane Mallarmé était considéré par Ravel comme étant le plus grand poète. Et c'est un poète très ésotérique, voire même parfois un peu... on comprend pas forcément toujours ce qu'il veut dire, mais bon, voilà. Alors, là, il s'agit d'un enregistrement qui a été enregistré en avril, le 15 avril, vous voyez, ça tombe presque un anniversaire, 1977, toujours dirigé par Boulez. Alors, il y a Gilles Gomez, soprano, les membres de l'Orchestre Symphonique de la BBC, avec Howard Shelley au piano, Ellie Goren, Jeffrey Wakefield au violon, John Cooling, violon alto, il me semble, c'est pas vraiment la viole, John Boyce au violoncelle, David Budd, Christine Messiter au flûte, Colin Bradbury, Roger Fallot au clarinette, et dirigé par Boulez. Alors, je vais vous lire les textes de Mallarmé pour que vous compreniez que c'est... Alors oui, pardon, excusez-moi, je cherche mes notes, veuillez me pardonner. Il y a les trois titres, alors c'est trois chansons, donc le premier s'appelle « Soupir ». Le deuxième, Placet fut-il, et l'autre, Surgit de la croupe et du bon. Donc voilà, on est déjà dans un esprit particulier. Alors voilà le premier soupir, donc, qui dit ceci. Mon âme, vers ton front où rêve, ô calme sœur, un automne jonché de taches de rousseur, et vers le ciel errant dans ton œil angélique, monte comme dans un jardin mélancolique fidèle, un blanc jet d'eau soupire vers l'azur. Vers l'azur attendri d'octobre pâle et pur, qui mire au grand bassin sa longueur infinie, et laisse sur l'eau morte où la fauve agonie, des feuilles erre au vent et creuse un froid sillon, se traîner le soleil jaune d'un long rayon. Voilà, je vous reviendrai dans un instant sur la musique, parce que j'aurai évidemment pas mal de choses à vous dire sur ce point de vue. Voilà, c'est parti.
Thank you.
GMC+, Radio Libertaire 89.4. Alors, là, moi, je suis extrêmement bluffé par la nouveauté utilisée d'un point de vue musical. D'abord, on a des sauts harmoniques et mélodiques absolument incroyable, inédit, enfin, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le jazz moderne, hein, vraiment, soyons clairs, hein, ça date de 1914, c'est-à-dire ça a été composé 10 ans après le Scheherazade. C'est rien. Donc, vous voyez que... Et au tout début, il y a cet ostinato des violons derrière, enfin de la section à cordes. Vous avez sans doute... eu, comme moi, le sentiment d'avoir déjà entendu ça quelque part. Et bien en fait, oui, les minimalistes américains qui se revendiquent dans leur schéma répétitif de rendre hommage à Bach, se sont, à mon avis, bien inspirés de Ravel, parce que là, on est complètement dans cet esprit-là de quelque chose qui est... Alors oui, qu'on va retrouver évidemment dans le boléro, mais d'une manière un petit peu différente, puisque le boléro, on a vraiment un thème toujours identique qui revient avec une orchestration qui s'enrichit, des percussions, enfin quelque chose qui devient un peu énorme, que là on est complètement dans une sorte de minimalisme quand même, plus tout à coup, à la fin, le piano qui surgit et qui fait des arabesques un peu à la Debussy, ou même qu'on va retrouver chez McCoy Tyner ou Bill, hein, voilà, Bill Evans, c'est très clair, avec ce type complètement de choses. Moi, je trouve ça assez sidérant. Et puis même, la manière de chanter, elle est aussi peut-être, entre guillemets, plus naturelle que les chanteuses lyriques habituelles où on a... on peut même le trouver un peu en caricature dans les dessins animés, mais là, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui nous susurre à l'oreille quelque chose. Enfin, moi, je trouve ça particulièrement extraordinaire. Donc, je vais aller un petit peu plus loin, parce que Ravel disait, dans une interview dans le New York Times dans les années 20, il dit qu'il considère Mallarmé non seulement comme le plus grand poète français, mais comme le seul, puisqu'il a rendu poétique la langue française qui n'était pas destinée à la poésie. Bon, quand même. Les autres, y compris cet exquis chanteur qui était Verlaine, ont composé avec les règles et les limites d'un genre très précis et très formel. Mallarmé a exorcisé cette langue en magicien qu'il était. Il a libéré les pensées ailées, les rêveries inconscientes de leur prison. Et donc... En 1913, la première édition complète des poèmes de Mallarmé arrive, et les trois poèmes furent composés la même année dans différentes villes, qui renvoient aux principaux points d'attache de la vie familiale et amicale de Ravel. D'abord, Placé fut-il a été achevé à Paris, surgit à Saint-Jean-de-Luz chez ses parents, et Soupir à Clarence en Suisse, où il y avait Stravinsky qui était son pote. Alors, à ce propos... Les trois poèmes se présentent donc de cette manière. Le premier qu'on vient d'entendre, « Soupir », qui est dédié à Stravinsky. Le deuxième, « Placé fut-il », ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est Mallarmé, dédié à Florent Schmitt. Et « Surgit de la croupe et du bon », dédié à Eric Satie. Voilà. La création a eu lieu le 14 janvier 1914, lors d'un concert où était présenté en première audition le petit tel ferme l'œil de Florent Schmitt pour piano à quatre mains, et les quatre poèmes hindous de Maurice Delage et les trois poésies de la lyrique japonaise de Stravinsky. Les poèmes de Ravel achevaient ce concert. Voilà, donc on était vraiment encore une fois, hein, dans cette influence de l'Orient. Alors, voilà. Par contre, ce qui est important de noter aussi, c'est que l'instrumentation est la même que pour les trois poésies de la lyrique japonaise de Stravinsky, est très proche de celle des poèmes hindous de Delage. Voilà. L'influence, alors bon, là, évidemment, l'influence du Pierrot lunaire de Schoenberg est souvent évoquée. Ouais, pourquoi pas, Stravinsky et Edgar Varèse avaient, ça, on va en reparler évidemment de Varèse, avaient assisté à la création de cette œuvre à Berlin en 1912. Alors Ravel, sans l'avoir entendu, avait recueilli leurs témoignages, et sur leur description enthousiaste, il aurait envisagé d'écrire pour un ensemble de musique de chambre. Voilà, en fait, Schoenberg indiquait la route permettant à la musique de s'évader de l'énorme appareil du grand orchestre. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, donc on va écouter le deuxième, hein, Placé fut-il. Alors je vais vous dire de quoi il s'agit. Parce que c'est toujours extrêmement bizarre, Mallarmé. Hein, ça permet de redécouvrir un certain nombre de choses. Alors voilà, princesse a jalousé le destin d'une hébée qui point sur cette tasse au baiser de vos lèvres, j'use mes feux, mais je n'ai rang discret que d'abbé et ne figurerai même nu sur le Sèvres. Comme je ne suis pas ton bichon embarbé, ni la pastille, ni du rouge, ni du jeu mièvre, et que sur moi je sais ton regard clos tomber, blonde dont les coiffeurs divins sont des orfèvres, nommez-nous, toi, de qui tant de riz framboisé se joignent en troupeaux d'agneaux apprivoisés chez tous, broutant les vœux et bêlant au délire. Nommez-nous pour qu'amour ailé d'un éventail mi-peigne flûte au doigt, endormant ce bercail. Princesse, nommez-nous berger de vos sourires. Voilà. Donc, c'est parti, hein, tout simplement. On va faire les choses comme ça. GMC+, Radio Libertaire 89.4. Alors voilà, donc on est sur des jeux de rythme, des dialogues de sonorité plus chahutés, plus capricieux. La mesure, elle change souvent. Alors que Soupir, lui, était plus ancré dans le quatre temps, hein, enfin, dans le binaire, on va dire. Pour faire simple, le piano est absent pendant tout le premier quatrain du poème et il fait une entrée presque aussi spectaculaire que dans une œuvre future qui s'appelle Zygane, qui fera 10 ans après, en 1924, avec toujours ces arpèges, hein, qui accompagnent et qui évoquent les plaisirs frivoles et les jeux mièvres du poème. Voilà. Ce qui est génial avec Ravel par rapport à la poésie, qu'elle soit de Mallarmé ou des autres, c'est que il colle. On a l'habitude dans la chanson populaire du couplet, du refrain. Donc voilà, quelque chose qui est répétitif, hein, ou comme dans le blues avec les 32 mesures. Voilà, bon, vous connaissez, si c'est un blues en do, on a 8 mesures en do, 8 mesures en fa, de nouveau 8 mesures en do, et puis 8 mesures en sol, fa, et puis do. Voilà, hein, c'est très, très simple. Mais donc là, pas du tout. En fait, il colle complètement à l'asymétrie du texte, et c'est ça qui est absolument extraordinaire, qui est vraiment génial, et puis qui donne cette capacité à passer d'un univers à l'autre en quelques secondes. Enfin, c'est absolument mirifique. Et puis bon, là, on a vraiment vu à quel point les jazzmen se sont complètement inspirés de toutes ces harmonies, quoi. C'est vraiment très très clair. Là, il y a aucun doute là-dessus. Voilà, donc, et puis à la fin là, de ce placet futile, la flûte qui offre un contre-champ au dernier vers du sonnet, voilà, qui préfigure ce qui va donner plus tard l'air de la princesse, de l'enfant et sortilège. Bien, alors maintenant surgit, je vous entendais les bruits de papier, hein, ben voilà, c'est comme ça, surgit de la croupe et du bon. Alors là, je vous le lis aussi, c'est un très court, hein. Ce sont trois pièces très courtes, mais je voulais vraiment vous les faire écouter parce que c'est d'une modernité absolument incroyable. Surgit de la croupe et du bon, d'une verrerie éphémère, sans fleurir la veillée amère, le col ignoré s'interrompt. Je crois bien que deux bouches n'ont bu, ni son amant, ni ma mère, jamais à la même chimère, moi, sylphe de ce froid plafond, le pur vase d'aucun breuvage, de l'inexhaustible veuvage, agonise mais ne consent, naïf baiser des plus funèbres, à rien expirer annonçant une rose dans les ténèbres. Voilà, donc on va écouter ce dernier poème mis en musique de Mallarmé, et avec évidemment un certain nombre de choses à vous dire. Je vous laisse découvrir et on fera le débrief après. Voilà, c'est parti.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
GMC+, pardon, j'allais dire Jazz. Non, GMC+, Radio Libertaire 89.4 et en DAB+. Voilà, là, l'instrumentation, elle change un peu. C'est-à-dire qu'on a la seconde flûte qui, en fait, est remplacée par une petite flûte, la piccolo. La deuxième clarinette prend la clarinette basse, donc ça, c'est également nouveau dans l'orchestration. Et les violons sont sur un trémolo très, un peu cassé, hein, et très pianissimo, mais alors très dissonant. Hein, là, vraiment, on est complètement dans le... Bien que ce soit dédié à Eric Satie, on est très, très, très proche de... Pour moi, je trouve, de Schoenberg. Enfin bon, voilà. Et donc, ce que je disais, hein, c'est que le texte épouse... la mélodie épouse le texte au plus près, ni vocalise, ni mélisme, une note par syllabe, voilà, hein, c'est y a quelque chose en même temps dans cet ensemble qui, il y a une égalité de timbre, c'est très limpide, voire même un peu glacé, les harmoniques du quatuor, les octaves du piano, c'est un peu angoissant là, hein. Voilà, et le chant est très très net, très très intelligible. Bon, voilà. Alors Charles Cochelin, qui avait émis un certain nombre de critiques, il avait dit à propos du traité d'orchestration, éviter aussi les mots rares et difficiles à comprendre à première audition. Donc, il reprend le premier tercet du Surgit de la croupe et du bon que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai récité. Mais il dit également, on ne saurait blâmer Debussy ni Ravel d'avoir offert à la mémoire de Mallarmé l'hommage de leur musique par les trois poèmes que vous connaissez, je pense. Mais avouez que si l'auditeur ne sait pas déjà par cœur le texte humoriste et délicieux de Place est futile, on ne voit pas ce qu'il pourrait et ce qu'il y pourra comprendre. Quant à Surgit de la croupe et du bon, bien plus hermétique, il le faut d'abord traduire comme un auteur difficile, sous peine de ne pas apprécier à sa valeur la belle exégèse musicale de Maurice Ravel. Voilà. Donc, évidemment, je ne peux que acquiescer ce qui vient d'être dit. Hein. Bon, en plus, je ne suis pas le super spécialiste, mais bon, ça me paraît assez logique. Alors, il nous reste un petit peu de temps, peu malgré tout, mais néanmoins, là, encore deux autres chansons. Il s'agit des trois autres chansons, pardon, excusez-moi, je reprends, mais c'est trois chansons Madécas. La première s'appelle, Narandove, la deuxième Awa, et la troisième Il est doux. Alors, là aussi, très belle distribution, puisqu'il y a Jessie Norman au soprano, les membres de l'ensemble intercontemporain, Alain Marion à la flûte, Philippe Muller au violoncelle, Pierre-Laurent Aymar au piano, et toujours dirigé par Boulez. Ça a été enregistré le 4 février 1979 à Paris, à l'IRCAM. Alors, là, c'est intéressant parce que politiquement, il s'agit de la part de Ravel, surtout dans la chanson Awa, la deuxième, que j'espère nous aurons le temps d'écouter. Il y a vraiment sa position anticolonialiste dans ces textes. Alors, voilà, ça a été composé entre 1925 et 1926 pour mezzo et baryton, flûte, violoncelle, piano, sur des poèmes en prose, des chansons Madécas, d'Évariste de Parny. Alors, elles sont dédiées à Elizabeth Sprague Coolidge, qui était une mécène américaine de Ravel. Le compositeur, à la fin de sa vie, répéta à plusieurs reprises que toutes les œuvres qu'il avait composées, c'est de ses chansons qu'il était le plus fier. L'œuvre porte la référence M78 dans le catalogue des œuvres du compositeur établi par le musicologue Marcel Marnat. Et la durée d'exécution, en général, c'est aussi entre 13 et 14 minutes. Donc nous devrions avoir le temps si je ne suis pas trop bavard, mais au moins en tout cas les deux. Alors la création s'est faite en plusieurs étapes. D'abord, la seule seconde des chansons Madecas Awa a été donnée lors de deux auditions privées organisées par la commanditaire, Elisabeth Sprague Coolidge, donc, le 24 mai 1925 à l'Hôtel Majestic à Paris et le 28 mai 25 à Londres. Voilà, les deux fois avec pour interprète Jane Bathory au chant, Ravel au piano en personne, Louis Fleury à la flûte et Hans Kindler au violoncelle. Que dire de plus ? Le compositeur Léo Moreau, qui était à l'audition, a protesté à haute voix contre les paroles de la mélodie pourtant bissée par les interprètes. Voilà. L'année suivante, une fois achevées les premières et troisièmes chansons, le cycle entier a été donné. Lors d'auditions privées pour les invités de la mécène Elisabeth Sprague Coolidge, le 8 mai 26 à l'Académie américaine de Rome, puis le 21 mai 26 au Palais d'Egmont de Bruxelles, les deux fois avec pour interprète Jeanne Bathory au chant et Alfredo Casella au piano, Louis Fleury à la flûte et toujours Hans Kindler au violoncelle. Et le 13 juin 1926 à la salle Erard de Paris, était une marque de piano, avec les mêmes interprètes à une exception près, le flûtiste Urbain Bauduin qui remplaçait Louis Fleury initialement prévu, mais malheureusement qui était décédé entre-temps prématurément. Voilà, que vous dire de plus Donc, Ravel, en fait, s'était enthousiasmé pour les poèmes de Parny, dont le contenu était conforme à ses convictions. Et donc, dans un style dépouillé, il adopte pour cette musique ce qui va s'inscrire dans la suite de sa sonate pour violon et violoncelle. Voilà. Alors, je vais vous lire les textes de ces chansons. La première que nous allons écouter, c'est Naondove, ô belle Naondove, ou Naondove, je ne sais pas. L'oiseau nocturne a commencé ses cris, la pleine lune brille sur ma tête et la rosée naissante humecte mes cheveux. Voici l'heure. Qui peut arrêter Naondove, ô belle Naondove? Le lit de feuilles est préparé, je l'ai parsemé de fleurs et d'herbes odoriférants. Il est digne de tes charmes, Naondove, ô belle Naondove. Elle vient. J'ai reconnu la respiration précipitée que donne une marche rapide. J'entends le froissement de la pagne qui l'enveloppe. C'est elle, c'est Naondove, la belle Naondove. Oh, reprends haleine, ma jeune amie. Repose-toi sur mes genoux, que ton regard est enchanteur, que le mouvement de ton sein est vif et délicieux, sous la main qui le presse. Tu souris, Naondove, ô belle Naondove, tes baisers pénètrent jusqu'à l'âme, tes caresses brûlent tous mes sens, arrête ou je vais mourir, meurt-on de volupté, Naondove, ô belle Naondove. Le plaisir passe comme un éclair, ta douce haleine s'affaiblit, tes yeux humides se referment, ta tête se penche mollement et tes transports s'éteignent dans la langueur. Jamais tu ne fus si belle, Naondove, ô belle Naondove, tu pars, je vais languir dans les regrets et les désirs, je languirai jusqu'au soir, tu reviendras ce soir, Naondove, ô belle Naondove. Alors évidemment, ça a fait un petit peu scandale chez certains, mais que les puritains et autres censeurs à la gomme, surtout bon à l'époque. Bref, nous allons l'écouter et ce sera encore mieux. Voilà.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Libertaire, c'est Gabriel, Maurice, Claude et les autres, GMC+, comme l'on dit. Alors je voudrais, nous allons avoir peu de temps pour la suite, mais je voudrais vous lire le texte de la deuxième chanson Madécase qui s'appelle « Awa ». Alors là, c'est vraiment une chanson très clairement anticolonialiste. Hein, donc, Ravel avait affirmé son anticolonialisme et donc sa vision progressiste du monde depuis le début. Et donc, voilà le texte. C'est pour ça qu'il s'est passionné et dont il est fier. Le texte dit la chose suivante. « Méfiez-vous des Blancs, habitants du rivage. Du temps de nos pères, des Blancs descendirent dans cette île. On leur dit « Voilà des terres ». Que vos femmes les cultivent, soyez justes, soyez bons et devenez nos frères. Les Blancs promirent, et cependant ils faisaient des retranchements. Un fort menaçant s'éleva, le tonnerre fut renfermé dans les bouches d'airain, leurs prêtres voulurent nous donner un dieu que nous ne connaissions pas. Ils parlèrent enfin d'obéissance et d'esclavage, plutôt la mort. Le carnage fut long et terrible, mais malgré la foudre qu'ils vomissaient et qui écrasait des armées entières, ils furent tous exterminés. Awa. « Awa, méfiez-vous des Blancs. Nous avons vu de nouveaux tyrans plus forts et plus nombreux planter leurs pavillons sur le rivage. Le ciel a combattu pour nous. Il a fait tomber sur eux les pluies, les tempêtes et les vents empoisonnés. Ils ne sont plus, et nous vivons libres. Awa, Awa, méfiez-vous des Blancs, habitants du rivage. » Voilà, tout est dit. Je pense que c'est particulièrement incroyable de lucidité. Et je voudrais terminer sur une phrase de Ravel lui-même qui disait « Je me refuse simplement, mais absolument, à confondre la conscience de l'artiste, qui est une chose, avec sa sincérité, qui en est une autre. Cette conscience exige que nous développions en nous le bon ouvrier. » Mon objectif est donc la perfection technique. Je puis y tendre sans cesse puisque je suis assuré de ne jamais l'atteindre. L'important est d'en approcher toujours davantage. L'art, sans doute, a d'autres effets, mais l'artiste, à mon gré, ne doit pas avoir d'autres buts. Voilà, c'est une profession de foi que je pense qui ne peut que nous rendre fiers de ce musicien. Voilà, donc nous allons terminer sur ce Awa. Je vous dis rendez-vous dans un mois pour la troisième, donc de GMC+. Et la semaine prochaine, rendez-vous jeudi prochain pour Jazz Lib à partir de 19h30. Voilà, bye bye. Je vous dis Fraternity Swing quand même. Et puis, j'espère que cette émission vous apporte du rêve et de la poésie. Voilà, à bientôt.
2000 balles, diable, et tous les deux y sont partis, mon ange descendu des cieux, mon ange bleu du paradis, le vilain monsieur.
J'ai constitué un univers sonore si vaste que j'hésite devant chaque œuvre à la concrétiser de manière parcellaire. Pourtant, quand j'entre dans mon studio, mes titres, ces alphabets d'idées, m'entourent, m'attirent et me donnent envie de composer à nouveau. Je lis sur les boîtes, cuves de fureur, graines de temps, cloches de lune, carillons en harmonique. Je n'écris pas ma musique avec des notes, mais avec des mots. Quand j'écris nuages, je peux penser à une résonance de piano en réverbération inversée. Mais ça m'intéresse aussi que l'on ait présent à l'esprit l'image de nuages qui s'estompe. Le classement, ma bibliothèque de Babel, toujours inachevée, éternellement recommencée. Dynamique, malgré son irrémédiable imperfection, le classement est à lui seul le moteur de ma création. Dans Parcours Cosmogonie, toutes mes œuvres antérieures à 1976 sont charcutées, mises en pièces et réorganisées thématiquement. L'idée de classement devient ici un véritable argument dramatique. Pour moi, classer, c'est créer. D'ailleurs, je classe mes classements. Tous les 3 ans, je déchire mes répertoires et rédige de nouvelles fiches en fonction de paramètres et postulats nouveaux. Au début d'un projet, c'est toujours la même chose. Je me mets en quête d'une formule, d'une atmosphère, d'une couleur passée. Je voudrais encore les utiliser. Leurs mémoires reviennent. Comment mettre la main dessus? Je dresse des listes pour voir, dans l'abstrait, sur de grands papiers, pour être sûr de ne mettre aucun son qui, issu d'une source différente, pourront ensuite être combinés par analogie. Mes premiers répertoires de ce genre remontent à 1960. Plaques, tiges, membranes, cordes du piano et divers frotti-frotta. Ces répertoires se révèlent pleins de ressources. Ainsi, on entend un son de tige et on pense violoncelle. Cette association de mots et d'idées fait avancer l'œuvre à partir d'une poétique des sons. Le titre, c'est déjà le son. Tous mes sons ont un nom. Ils ont tous une personnalité. Ils ne sont pas seulement aigres, graves, raides ou souples. Ils entretiennent avec d'autres domaines tout un système d'équivalence. Oui, le nom, c'est le son. Dans d'autres studios, la classification des sons s'appuie sur des données scientifiques. Chez moi, il n'y a pas de sons normalisés, étalonnés, mais des entités qui, en elles-mêmes, sont des micro-œuvres. Les compositeurs travaillent avec des sons à tout faire, l'équivalent des notes de musique. Moi, je n'ai pas de notes. Je n'ai jamais aimé les notes. Il me faut des qualités, des rapports, des formes, des actions, des personnages, des matières.